Vous êtes dans l'église Saint-Léon, en plein courant d'air, puisque je laisse les portes ouvertes pour éviter que les personnes n'aient touché les poignets pour sortir ou pour entrer. Et donc, je ne sais pas ce qu'on va faire cet hiver. Mais, je suis désolé de vous mettre en plein courant d'air. Donc, je me présente rapidement, Emmanuel Schwab, je suis prêtre depuis 32 ans, en 88, je suis parisien. Né à Paris, ingénieur de formation initiale. Et un parcours tout bête de prêtre de Paris où j'étais, on m'a scotché dans 10 ans vicaire à Saint-Jean-Baptiste de la Salle, qui est au métro Pasteur. Ensuite, j'ai eu la grâce de fonder une nouvelle paroisse dans Paris, Notre-Dame l'Arche d'Alliance, dont l'église a été construite par Architecture Studio. C'est un bel exemple d'architecture moderne. Intéressant du coup, puis en Buffon. Ensuite, je suis parti de l'autre côté de la Seine, Saint-Ferdinand-des-Ternes, dans le 17e, où je suis resté 12 ans. Et puis, on m'a ramené dans le 15e. Donc, depuis 7 ans, je suis curé à Saint-Léon. Et depuis 10 ans, je suis aumônier d'une association qui s'appelle Au Captif, la Libération, qui a été fondée par un prêtre de Paris il y a bientôt 40 ans, et qui va... des personnes de la rue, c'est-à-dire précarité et prostitution, qui sont nos deux domaines, avec vraiment une optique d'évangélisation, c'est-à-dire de manifester l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour tout homme. Cet amour se manifestant par nos tournées rues, itinéraire, un binôme, un horaire, et à partir de ces tournées rues, nous avons une soixantaine de salariés et 300 bénévoles. À partir de ces tournées rues, peuvent se vivre des choses, y compris un accompagnement social, bien sûr. Et on essaie de prendre en compte l'intégralité de la personne, y compris la vie spirituelle qu'on pourrait résumer. Et d'abord la question du sens. Beaucoup de personnes qui sont en déshérence ont perdu le sens de leur vie. Et il y a quelque chose de ce côté-là. Alors, de quoi que je dois vous causer? De ce que c'est que la vie d'un chrétien, quoi?
Oui, c'est ça. Voilà. Puis là, qu'est-ce que c'est une paroisse? Comment ça fonctionne?
À quoi ça sert tout ça, Chantre Maxime? Et pas dans une salle paroissiale, mais parce que c'est d'ici qu'on peut comprendre ce que c'est que... Voilà, on peut comprendre plein de choses ici. Alors, une église, qu'est-ce que c'est? C'est le lieu où se rassemble l'église. Le mot église vient du grec, du verbe ek, qui veut dire hors de, appelé hors de. Convoqué ou exvoqué. C'est le rassemblement que le Seigneur Jésus fait de tous ceux qui veulent écouter sa parole et se mettre à sa suite. Le bâtiment prend le nom de la communauté qui s'y rassemble. Et une première chose intéressante à noter, c'est qu'il y a sur les murs ce qu'on appelle des croix de consécration. Et en général, liées aux croix de consécration, il y a des cierges qui sont prévus. Et donc, vous avez une première croix là, vous en avez quatre dans les piliers et une au fond, deux fois, ça fait 12 croix de consécration en lien avec les 12 apôtres. Et ce que je note là, c'est que c'est le bâtiment qui est consacré. Dans la liturgie, donc la prière publique par laquelle on consacre une église, le rite principal... Il y a deux rites importants. Le premier, c'est d'asperger les murs de l'église avec l'eau du baptême, l'eau bénite, comme si on baptisait l'église. Et le deuxième rite, c'est le rite de l'onction avec l'huile sainte, le saint crème. Crème s'écrivant C-H-R-E, accent grave, accent circonflexe, pardon. C'est H-R-E, accent circonflexe M-E, qui vient de chrisma, qui veut veut dire l'huile. Le Saint-Crème, c'est l'huile sainte, l'huile par laquelle on signifie le don de l'Esprit-Saint. Et quand on consacre une église, on commence à oindre l'autel avec le Saint-Crème, donc consacrer l'autel, puis les murs de l'église. Et donc une église, ce n'est pas une salle de théâtre et puis le chœur où il se passerait l'événement liturgique. C'est tout le bâtiment qui est consacré, parce que c'est le peuple de Dieu qui est consacré. Et donc quand un chrétien rentre dans l'église, il y a des bénitiers à l'entrée de l'église. Alors maintenant, j'ai adapté les bénitiers aux normes actuelles. Il y a à l'extérieur, derrière, des distributeurs d'eau bénite qui permettent de se signer avec l'eau du baptême sans avoir besoin de faire trompouille. Voilà, et donc le chrétien catholique qui rentre dans l'église prend l'eau du baptême, se souvient de son baptême en se marquant du signe de la croix avec l'eau du baptême et rentre dans cet espace qui est consacré à Dieu, qui est consacré à la prière, lui rappelant qu'il est lui-même consacré. Le cœur de l'église, le centre, c'est l'autel. Vous savez que l'autel vient du latin altar, qui veut dire un lieu en hauteur. Quelque chose de très très antique dans les différentes traditions religieuses. On monte vers Dieu. L'autel, il est consacré. Cinq croix en signe, en souvenir des cinq plaies de Christ dans les poignets, dans les deux pieds et dans le côté. Et l'autel représente le Christ. Ce qui est le cœur de la vie chrétienne, Jésus-Christ, et pas seulement quelqu'un, mais c'est l'événement fondamental qui, à nos yeux, fait basculer toute l'histoire des hommes, à savoir la mort et la résurrection de Jésus. Alors, j'ai besoin de savoir un petit peu à qui je m'adresse, parce que j'ai eu la liste, mais je ne sais pas du tout comment vous vous situez religieusement. C'est pour savoir quel vocabulaire employer, quelle référence avoir. D'abord, est-ce qu'il y a parmi vous des juifs? Oui. Bon, c'est bien. Chrétiens qui connaissent un peu bien l'Évangile. Oui, un petit peu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment étrangers à l'Évangile, qui ont jamais... ils ne sont jamais penchés dessus. Et Jésus, ils savent bien qu'il y a quelqu'un, mais voilà, ils n'en savent pas beaucoup plus. Bon, donc il y a un minimum. Donc je vous dis les choses comme je les comprends, et j'espère que ce que je comprends est conforme à la foi catholique et que je ne suis pas en train de raconter des âneries. Nous ne pouvons pas comprendre le phénomène Jésus en dehors de toute la révélation faite à Israël, depuis Abraham. Et quelle est cette révélation? C'est que Dieu, créateur, veut se révéler à tous les hommes, et que pour s'y révéler, il choisit, dans sa liberté souveraine, de constituer un peuple, j'allais dire, qui est destiné à être en avance sur les autres, dans cet accueil de la révélation de Dieu, et qui est choisi pour accueillir la révélation de Dieu en vue de le transmettre à toutes les nations. Est-ce qu'il faut installer des tables et chaises dans la salle ou est-ce que vous vous en occupez?
Si on peut installer, c'est bien. Vous voulez que j'aille la voir?
Oui, elle est au secrétariat. Allez la voir. Vous voyez où est le secrétariat? Merci. Et qu'est-ce qui... ce peuple, il veut faire une alliance. C'est le grand mot qui, on pourrait dire, traverse toutes les Écritures, la Torah, comme les prophètes, comme les autres écrits. Cette alliance, c'est la proposition de Dieu de faire vivre ce peuple selon une parole qu'il lui adresse. Avec la grande formule de l'alliance, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Un nombre de clauses. Comme on pourrait dire dans l'alliance conjugale, il y a une alliance qui repose sur un certain nombre de clauses. Ce n'est pas n'importe quoi qui est vécu. Et il me semble, sans vouloir offenser personne, que à cette main tendue de Dieu, qui est « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple », Israël cherche à répondre en disant « Oui, tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique », mais n'y parvient pas. Et donc, l'alliance est rituellement scellée du côté de l'homme, mais elle n'est jamais vécue jusqu'au bout. Et les prophètes passent leur temps à dénoncer ces ruptures d'alliance. Et en même temps, passent leur temps à rappeler que Dieu va renouveler, que Dieu va faire miséricorde. Qu'est-ce que je comprends de Jésus? C'est que Dieu lui-même se dit, là je vais parler de mon Dieu, c'est toujours risqué, je vais y aller moi-même pour répondre. Et Jésus, fils d'Israël, ce que nous croyons de lui, c'est qu'il est le Verbe de Dieu, la parole éternelle du Père éternel qui se fait homme. Et Dieu Jésus répond à Dieu de manière parfaite. Et du coup, lui, cet homme-là, il scelle l'alliance de manière nouvelle et définitive. Jusqu'au bout de son chemin, jusque dans la mort sur la croix, il reste fidèle et répond à Dieu le Père parfaitement filial, libre et amoureux. Et la réponse du Père à l'offrande que Jésus fait de lui-même, c'est de le faire vivre plus fort que la mort, c'est la résurrection. Et ainsi, l'alliance est définitivement scellée en Jésus. Et désormais, le salut, c'est d'être mis avec Jésus, que l'on soit juif ou que l'on soit païen. Et le mot catholique, au passage, vient du grec kata holon. Holon veut dire le tout. On retrouve dans holistique, par exemple, holos. Et kata veut dire selon. La catholicité, c'est le rassemblement selon le tout, d'abord d'Israël et des païens. Mais c'est aussi le rassemblement selon le tout des cultures, des langues, des nations. Le rassemblement catholique signifie que ce n'est pas un rassemblement dans l'uniformité, mais que c'est un rassemblement dans l'unité qui assume toutes les richesses des uns et des autres. Nous avons une fâcheuse tendance, lorsque nous voulons unifier les choses, à demander à tout le monde de porter le même uniforme, à tout le monde de parler la même langue, effacer la tour de Babel. Et voilà. Or, la catholicité, c'est précisément de réaliser une communion en assumant les différences, en assumant les richesses de chacun. Cet événement de la mort et de la résurrection de Jésus, qui, nous le croyons, scelle l'alliance pour nous, est à nos yeux au centre de tout. Et est la clé de tout. Et la vie chrétienne, ça n'est pas de suivre des préceptes religieux, de suivre des commandements. C'est d'abord d'être et d'être unis à Jésus. Et tout est organisé en vue de cela. Je ne dis pas que tout est vécu ainsi par tous les chrétiens catholiques. Mais je dis que tout est organisé en vue de cela. Le baptême, les sacrements de l'Église, qui sont des actions de Dieu par Jésus, dans l'Esprit Saint, qui sont réalisés par des actes dans lesquels Dieu agit, concrètement, historiquement. Dans le baptême, l'homme est mis avec Jésus. Dans le sacrement de la confirmation, l'Esprit Saint de Dieu, promis par Ézéchiel, est donné à chacun comme son propre esprit. Dans le sacrement de l'Eucharistie, dans la messe que nous célébrons, c'est vraiment l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus qui est rendu présent et où Jésus se donne lui-même en nourriture. Le Verbe nous nourrit. Il y a déjà chez le prophète Ézéchiel cette idée que la parole de Dieu est une nourriture concrète. À un moment, le prophète Ézéchiel reçoit d'un ange le rouleau du livre, le rouleau de la parole de Dieu. Et l'ange lui dit, mange. Et il mange le rouleau de la parole et il dit, ça avait dans ma bouche la douceur du miel. Dans les autres sacrements, si on continue, pendant que je suis parti, on va faire les sept, le sacrement de l'onction des malades, c'est vraiment une force d'être uni plus intimement à Jésus ressuscité pour vivre l'épreuve de la maladie, pour vivre l'épreuve de la croix avec Jésus. Dans le sacrement du pardon, lorsque l'homme a péché gravement et qu'il s'est ainsi comme séparé du Seigneur Jésus, le sacrement du pardon, c'est de le remettre avec Jésus dans la communion de l'Église. Le sacrement de l'ordre, c'est d'assurer de plus près au ministère de Jésus, comme ont été les apôtres. Et enfin, dans le sacrement du mariage, c'est de donner à l'homme et la femme qui s'unissent de vivre l'alliance même du Christ et de l'Église, de Dieu avec l'humanité. Et donc la vie chrétienne a quelque chose d'assez unique. Si on fait une sociologie des religions, ce qui a sa pertinence, et qu'on essaie de faire un tableau comparatif qui a sa pertinence, avec en abscisse les différentes religions qu'on connaît, et puis en ordonnée les différents trucs propres à chacun. Par exemple, si on met en ordonnée le bâtiment dans lequel ils se rassemblent, on va voir chez les chrétiens, les catholiques, on va avoir une église, ou chez les orthodoxes, chez les protestants, on va avoir l'habitude de parler de temple, chez les juifs, on va avoir la synagogue, chez les musulmans, on va avoir la mosquée, chez les bouddhistes, on va avoir la pagode, enfin voilà, très bien. Si on a le livre de référence, on va avoir la Bible, la Torah, etc., tout ce que vous voulez. Mais sur la ligne, à qui sont-ils intimement unis pour vivre leur vie? Il n'y a que chez les chrétiens qu'on va avoir quelque chose. Il y a quelque chose d'unique dans la vie chrétienne par rapport à d'autres vies religieuses qui est être unis à Jésus. Il y a quelque chose d'incontournable. Les grands personnages, si je prends dans le judaïsme, les grands personnages que sont Abraham, Moïse, David, etc., sont des références fondamentales. Leurs paroles et leur enseignement est une référence fondamentale. Mais la vie ne consiste pas à être unie à Moïse. Musulman, Mohammed est une référence absolument fondamentale. Il est extrêmement vénéré, mais la vie ne consiste pas à être unie à lui. Par contre, pour le chrétien, la vie consiste à être unie à Jésus pour pouvoir, par lui, avec lui et en lui, accomplir la sainte loi de Dieu. Non pas par nos propres forces, mais par l'union à Jésus. De Jésus dans lequel il rend présent l'offrande qu'il fait de sa vie pour que nous vivions de sa vie. Et il y a aussi le lieu de la parole, dans lequel nous proclamons la parole de Dieu. En fait, la célébration d'une messe, c'est l'association de deux choses. C'est l'association de la liturgie synagogale, qui est essentiellement une liturgie de la parole, où on loue Dieu et où on écoute la parole de Dieu et qui est commentée. Et puis, on ajoute à cela le dernier repas de Jésus, le repas de la scène, dans laquelle il instaure, dans la célébration de la Pâque juive, qui se vit encore aujourd'hui, à ceci près que, au temps de Jésus, le temple est encore debout, maintenant il n'y a plus le temple. Le rituel a un petit peu bougé, Mais en gros, c'est la même chose. Et au début du repas, il ajoute dans le rituel juif de la Pâque, en prenant les matzot, ceci est mon corps livré pour vous, et à la fin du repas, avec la quatrième coupe de bénédiction de la fin du repas, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et les évangiles et les livres qui suivent des Actes des apôtres témoignent que dès le début, les apôtres comprennent que ce « vous ferez cela en mémoire de moi » est à réitérer tout de suite. Et je pense que depuis les origines, les disciples refont cela même le jour de la résurrection. Alors, ça c'est le cœur de la vie paroissiale, c'est ce bâtiment. Qu'est-ce qui s'y passe dans ce bâtiment? Il se passe la célébration de la messe, il se passe la célébration des autres sacrements, notamment le baptême, que nous célébrons de préférence le dimanche, le jour de la résurrection. Vous voyez, avec ces jolis rideaux rouges, les confessionnaux, qui est le lieu ordinaire où les catholiques viennent trouver le prêtre pour dire leur péché, confesser leur péché, confesser la miséricorde de Dieu et recevoir le pardon de leurs péchés. Vous avez un bureau d'accueil qui est à la fois un bureau d'écoute, un bureau de renseignement, où ce sont des fidèles baptisés qui tiennent cet accueil. Et puis il y a une autre partie qui est l'accueil des prêtres, lorsque quelqu'un souhaite rencontrer un prêtre, qu'il puisse le faire directement sans intermédiaire. Et donc nous avons un certain nombre de créneaux d'accueil. Et les gens viennent pour demander un sacrement, notamment demander le baptême, pour leur enfant ou pour eux-mêmes. Et puis beaucoup viennent pour se confesser, quelques-uns pour parler d'une question. Voilà, nous avons aussi des temps de prière qui ne sont pas la messe dans l'église, notamment tout le matin, le mardi au vendredi, on a le chant des laudes qui est la prière publique de l'église du matin. Le dimanche après-midi, on a les vêpres. Voilà, il y a des gens qui se réunissent pour prier le chapeau. Alors, ça, c'est donc le cœur de la vie paroissiale. Mais ce que nous célébrons ici, c'est Jésus se donne à nous pour que nous nous donnions. En fait, il y a quelque chose de dangereux pour un chrétien. Quand on vient célébrer l'Eucharistie, on accepte d'être unis plus intimement à Jésus qui donne sa vie pour que nous aussi nous donnions notre vie. C'est-à-dire que nous allions jusqu'au bout de l'amour, que nous accomplissions l'unique commandement nouveau qu'il y a dans les évangiles. Je mets au défi un juif de lire l'évangile en disant ça, c'est pas juif. Il n'y a qu'un seul truc qui est nouveau, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais tout le reste des préceptes du Seigneur, on peut les retrouver dans la tradition juive. Notamment chez le judaïsme de l'époque de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est pas seulement une imitation, mais dans la célébration de l'Eucharistie, puisque nous prétendons recevoir vraiment en nous Jésus ressuscité, alors nous sommes rendus capables d'aller jusqu'au bout de l'amour comme Jésus. Et je comprends bien que ceux qui voient des chrétiens qui vivent comme des pédzouilles soient scandalisés. Prétendez célébrer, on ne le voit pas. Une souffrance de ne pas parvenir à aimer autant que Jésus, mais on peut toujours grandir et croire. Et donc, ce qui se joue dans l'Eucharistie doit se traduire de différentes manières. Doit se traduire dans une charité fraternelle vécue entre les membres de la communauté. Et c'est pour cela qu'il y a besoin dans une vie de la messe pour que les gens se connaissent, que les gens se reconnaissent, et que ce ne soit pas un club mondain, mais que ce soit une vie fraternelle qui s'appuie, qui se nourrisse, notamment de la parole de Dieu. et qu'il y ait des temps où on puisse se réjouir ensemble. Dans une paroisse, en général, on aime bien manger, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais aussi où on sent la parole de Dieu, où on échange sur la parole de Dieu, où on réfléchit sur des questions qui se posent dans notre monde, etc. Et donc, il y a différentes choses qui existent, de formation, de travail en commun, de repas, de trucs comme ça. Et puis, il y a tout ce qui concerne le service des plus pauvres. Plus pauvres, entendons-le au sens large. Quand il y a des rencontres où viennent des personnes plutôt âgées, isolées, qui vivent seules, c'est une forme de pauvreté que d'être dans cette solitude de la vieillesse pour certains. Nous avons plusieurs groupes caritatifs, notamment Conférence Saint-Vincent-de-Paul, Équipe Saint-Vincent, qui s'occupent de suivre des familles, de suivre des personnes en difficulté. Nous avons l'opération Hiver Solidaire, qui avait été initiée par le cardinal 23 en disant: vous avez des salles assez grandes, il y a des gens qui sont dans la rue l'hiver, peut-être qu'on peut les accueillir chez nous. Et donc ici, on accueille, ça dépend des hivers, entre 6 et 10 personnes. Donc, c'est des personnes, ici, ils font des maraudes tous les lundis soirs. Donc, on connaît pas mal les gens qui vivent dans la rue, dans le quartier. Et donc, on en invite certains pour l'opération Hiver Solidaire qui dure en gros de mi-décembre à mi-mars. Et voilà, donc c'est pas un lieu où on peut venir, repartir, etc. L'idée, c'est de vivre ensemble quelque chose avec un accompagnement social qui est d'ailleurs fait par les travailleurs sociaux de l'association dont je suis aumônier. Mais c'est pas parce que j'en suis aumônier qu'ils interviennent dans tout l'hiver solidaire. Avec l'idée de vivre ensemble quelque chose. Un peu comme une vie de famille, donc on les accueille de 8 avec dîner, nuit, petit déjeuner. Dans la journée, ils peuvent laisser des affaires là. Et les paroissiens sont invités à s'inscrire pour... Alors il y a ceux qui préparent le dîner, il y a ceux qui viennent dîner avec, il y a ceux qui passent la nuit, c'est dîner plus soirée, il y a ceux qui passent la nuit, il y a ceux qui préparent le petit déjeuner. Si vous voulez, il y a une bonne centaine de personnes qui sont au boulot pour une opération comme Hiver Solidaire pour accompagner 8 personnes. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'assez rapidement, c'est les accueillis qui sont les accueillants. Parce que finalement, ça devient un peu chez eux, la salle où ils se rassemblent, ils savent ce qu'il y a dans les placards, etc. Et les gens qui viennent juste pour une soirée, ils sont un peu paumés là-dedans. Donc, c'est... Et dans ce travail-là, un certain nombre, on arrive à recaser un certain nombre. Dans des logements, aider à reprendre pied. On a ici une paroisse assez riche en militaires, puisqu'il y avait l'immeuble des généraux qui était à droite en sortant, et puis en face il y avait une caserne qui était transformée, tout ça. Il y a beaucoup de logements militaires, donc on a pas mal de militaires, on a des anciens militaires en retraite qui ont voulu rester dans le quartier. Et donc là il y a des gars qu'on suivait qui ont pu rentrer à la Légion. Voilà, vous voyez des choses assez super qui s'y vivent là. Voilà, et puis aussi un grand souci qui est celui de l'éducation de la jeunesse et de la transmission et d'un savoir-vivre chrétien à la jeunesse. Et donc nous avons 3 grandes œuvres pour la jeunesse. Nous avons bien sûr le scoutisme, et ici il y a 2 familles scouts, il y a le scout de France et les scouts d'Europe. Bon, au total, avec les adultes, tout ça, ça fait 600 personnes. Un patronage par un prêtre qui vient de partir pour être curé dans le 19e, qui a fait un magnifique boulot vraiment pour remonter ça. Et le patronage, on arrive à toucher des familles qui ne sont pas forcément chrétiennes, qui sont de milieux plus modestes que la bourgeoisie du 15e, il y a un certain nombre de logements sociaux là-bas, du brassage, un peu. Et puis la troisième chose, c'est le catéchisme proprement dit, donc qui est la transmission de la révélation aux enfants. Ça occupe pas mal. En gros, de 3 ans jusqu'à 30 ans, suivre les personnes.
Le fonctionnement de la paroisse, peut-être, Père Schwab.
Le fonctionnement technique
ouais,
de la paroisse.
Oui, peut-être, oui. Ouais.
Alors, le mot curé vient du latin cura, animarum, le soin des âmes. Donc, celui qui est curé, c'est celui qui est chargé du soin des âmes. C'est ça que ça veut dire. Avec le curé, dans les paroisses suffisamment importantes, dans les diocèses, il y a encore un certain nombre de prêtres. Il y a des aides pour le curé, en latin vicarius, vicaire. Les vicaires sont ceux qui viennent aider le curé dans sa charge. Donc ici j'ai deux vicaires. Donc un prêtre étudiant, c'est un prêtre à qui son évêque demande de reprendre des études en vue d'un service particulier dans l'église. Donc là j'ai un prêtre centrafricain qui est là depuis 4 ans, qui termine un doctorat en droit canonique et je ne sais plus quoi en droit civil, si c'est une maîtrise en droit civil. Et puis, nous avons un prêtre malgache qui est dans le diocèse de Rennes, vicaire à la cathédrale de Rennes, et qui vient en semaine faire des études au Bernardin en théologie dogmatique. Et donc, il est là du dimanche soir tard au vendredi après-midi. Et il repart à Rennes tous les week-ends et pendant les vacances. Voilà, donc eux, leur travail principal, ce sont leurs études, mais ils ont du temps pour nous donner un coup de main pour l'accueil, pour célébrer des messes, célébrer des baptêmes, célébrer des obsèques. À côté des prêtres, il y a des diacres. Les diacres sont aussi des hommes qui ont reçu le sacrement de l'ordre pour être dans l'Église des signes du Christ serviteur. Alors, le problème des diacres, c'est que si on veut définir le diacre par ce qu'il fait, on n'a rien à dire. Il n'est pas ordonné pour faire quelque chose, il est ordonné pour être un signe. Il est ordonné pour rappeler que Jésus est serviteur et que nous sommes appelés à être au service les uns des autres. Donc les tâches qu'on leur confie sont davantage des tâches de service, mais ça veut pas dire qu'ils sont uniquement ordonnés pour servir les plus pauvres. Les différents ministères qu'ils ont, en général, sont des hommes. Le plus souvent des hommes mariés qui ont une vie professionnelle et donc qui ne sont pas très disponibles, sauf quand ils sont en retraite, encore que. Voilà, donc nous on est d'une certaine manière des permanents, au sens où toute la sainte journée, 7 jours sur 7, mais les paroissiens qui sont là depuis 50 ans, paroissiens ici, ils sont plus permanents. Moi, je suis de passage. Voilà. Donc, c'est deux types de permanence. Alors, avec nous, il y a tout un tas de gens qui ont des responsabilités dans la vie paroissienne. Un baptisé qui est responsable de l'activité. Alors, c'est des activités plus ou moins importantes. Mais si vous voulez, on enlève le curé, on met un autre curé et ça continue de tourner. Simplement, le boulot du curé, c'est de donner des orientations, d'encourager, de susciter. Je ne suis pas du tout ingénieur du pétrole, mais si je ne me trompe, pour faire sortir du pétrole, il faut injecter je ne sais pas quoi, puis il y a le pétrole qui sort. Ben, c'est à peu près ça le boulot du curé. C'est d'injecter l'évangile dans le cœur des fidèles pour qu'il sorte quelque chose, pour qu'il en sorte des fruits, pour qu'il en sorte une fécondité. Et ensuite, il s'agit de faire le tri dans les initiatives qui peuvent être prises, parce que c'est vraiment au service de l'annonce de l'Évangile. Ou bien ça, écoutez, non, ça va nous épuiser pour pas grand-chose. Ou bien là, vous êtes juste en train de faire du détournement de bien ecclésial, c'est-à-dire que vous voulez pour vos chères têtes blondes un petit truc sympathique, Mais c'est mettre la main quoi, sur le dispositif pour vous et pas pour le service de l'Église. Comme dit Paul VI dans un de ses textes majeurs sur l'annonce de l'Évangile, l'Église existe pour évangéliser, c'est-à-dire pour faire connaître au monde la bonne chose. Voilà donc, le curé, il a deux conseils, un conseil dit pastoral, donc qui est là pour aider le pasteur à prendre de bonnes décisions. Ce conseil pastoral, il est composé d'abord de prêtres et des diacres qui sont nommés sur la paroisse, et puis d'un certain nombre de laïcs. La paroisse, c'est de faire un appel en chaire vers le mois de mai pour que des gens puissent faire acte de candidature écrite. Après ça, je reçois les gens. Et puis, en général, quand quelqu'un se propose, c'est rare que je dise non. Et puis, des gens que je nomme. Et ce que j'essaie dans le conseil, c'est d'avoir des gens qui ne pensent pas tous comme moi. Diversité de la vie paroissiale et de la vie sociale. C'est-à-dire que ben, dans une paroisse comme ça, il faut bien qu'il y ait au moins un militaire dans le conseil, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit un représentant des familles qui ont leurs enfants dans les deux écoles ici, parce qu'il y a pas mal de gens de la paroisse qui ont. Mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui puissent avoir des enfants dans les collèges privés, une école privée, etc. Enfin voilà, essayer de proposer sur les âges, d'avoir des jeunes, des moyens, des vieux, d'avoir un peu tout, hommes et femmes, pour avoir quelque chose qui représente un peu la diversité de la communauté paroissiale. Ce ne sera jamais absolument représentatif. Le conseil paroissial pour les affaires économiques, qui lui est obligatoire, donc le conseil pastoral pourrait ne pas exister, mais le conseil paroissial pour les affaires économiques est obligatoire. Ce sont des gens qui sont nommés par l'évêque sur proposition du curé, avec tout un tas de règles, non seulement d'âge, mais de règles, notamment, ça doit être des gens qui ne sont pas prestataires pour la paroisse, et ça doit être des gens qui n'ont pas de lien de parenté direct avec le curé. Voilà. C'est-à-dire en rapport à la paroisse et au curé, pour pouvoir donner des avis qui ne sont pas biaisés. Et le conseil est... Il suit les affaires financières et il est consulté, je ne sais plus quelles sont les fréquences, le conseil doit être consulté au-dessus d'une somme plus grande encore, il doit donner son accord, et au-dessus d'une somme encore plus grande, il faut passer à l'échelon supérieur, c'est-à-dire un des conseils de l'évêque qui doit donner son avis et encore plus haut son accord. Donc on est assez bordé sur le plan des dépenses. Une paroisse comme ça, on a 1,4 million de budget. Donc d'où ces viennent, c'est sur 1,4 million. Ben ça vient pour la moitié de ce qu'on appelle le denier de l'Église, qui est une libre participation des fidèles au financement de la vie paroissiale, lequel denier de l'Église ouvre droit au reçu fiscal. Donc, j'essaye de faire passer ça dans vos oreilles. Ça m'énerve quand on parle du reçu fiscal comme un encouragement à l'égoïsme, en disant que vous pensiez donner 100, mais en fait vous allez donner que 36. Si vous voulez donner 200, eh bien versez 600. Puisque le fait de donner 200 vous donne le droit d'aller prendre en plus 400 euros de vos impôts que vous ajoutez à vos 200. Donc, c'est un enjeu. Ensuite, il y a les quêtes à la messe. Doivent être ici autour de 220 euros. Voilà. Ensuite, il y a des ressources financières, puisque la trésorerie est gérée par le diocèse et placée par le diocèse. Et ils se débrouillent pas mal, parfois ça rapporte bien. Il y a tout ce qui est prêt de salle ou de théâtre. Ils n'ont pas de location, ils ont plus prêt. Parce que sinon on rentre dans la fiscalité, c'est compliqué. Et là, sur l'ensemble des trucs, l'an dernier, on avait dû faire 160 000, je crois. Enfin, voilà. Et puis le reste, on va voir des choses. Enfin, on arrive à 1,4 million. Sur ces 1,4 million, nous reversons pratiquement le quart au diocèse. Dans le diocèse de Paris, c'est que c'est les paroisses qui récoltent le denier de l'Église. Et donc, il y a un barème pour reverser au diocèse. Il y a une tranche à 10%, une tranche à 20%, une tranche à 30%. Et ici, on doit être au total, en gros, 22, 23%. Donc, c'est tout à fait normal. Il y a en plus une contribution volontaire de ce lit en décembre. Voilà, c'est une contribution volontaire à laquelle nous sommes très incités. Et puis, il y a en plus, en coopération dans le diocèse, ce qu'on appelle les opérations Barnabé, pour éviter que les curés de paroisses plus pauvres, en gros, il y a un quart des paroisses à Paris qui sont bien riches en résultats positifs, un quart qui sont en résultats un peu négatifs et un quart qui sont vraiment sans moyens. Et donc, pour éviter que les curés de paroisses pauvres qui ont un copain dans une paroisse riche, eux, arrivent à s'en sortir, tout ça, ça passe par l'évêque. Et donc, quand un curé a un projet qui est validé, en disant, bah oui, il a pourquoi faire le presbytère, pourquoi faire ceci ou cela, il y a besoin de ça pour la pastorale, et bien ensuite, l'évêque vient trouver des curés de paroisse riche en disant, est-ce que tu pourrais contribuer à cette opération-là? Je me souviens, à Saint-Ferdinand-des-Ternes, on a contribué pendant 5 ans à hauteur de 30 000 euros pour financer des travaux dans une autre paroisse de Paris. Ici, on a aussi contribué à hauteur de 25 000 euros pour la paroisse Notre-Dame du Travail, pour faire le cœur. Voilà. Ce qui est tout à fait normal comme péréquation dans le diocèse. Nous n'existons pas en droit français, vous savez. L'Église catholique a refusé les dispositions de la loi de 1905 parce qu'elle était contraire à la vie de l'Église catholique. Puisque la loi de 1905 proposait de faire des associations cultuelles, et si chaque paroisse était devenue une association cultuelle, l'évêque n'avait plus aucune autorité sur rien. Donc l'Église a refusé, et il a fallu 19 ans pour arriver à la loi 1927. Et donc l'association diocésaine, c'est la seule entité juridique en droit français qui représente l'Église. Et alors c'est amusant parce que l'évêque en est forcément le président. Donc il y a une reconnaissance par le droit civil de la logique canonique catholique. Alors, les paroisses n'existent pas en droit français. Cependant, j'ai un numéro SIRET, je paye l'URSSAF. Ça fait partie des choses étonnantes de nos dispositions. Une paroisse comme ça, on a une quinzaine de salariés, moins de 10 équivalents temps plein. Il y a des tiers de temps, quart de temps, deux cinquièmes, trois cinquièmes, quatre cinquièmes. Que dire encore sur l'organisation? J'essaie chaque année, mais ça c'est moi, ça m'est propre comme manière de gouverner, j'essaie chaque année de rassembler, et j'appelle ça le Sénat paroissial, l'ensemble, les deux conseils, bien sûr, conseil pastoral, conseil économique, avec l'ensemble des responsables d'activité. Mais que ce soit la personne qui est responsable du judo, la personne qui est responsable de l'hiver solidaire, la personne qui est responsable de la préparation au mariage, la personne qui est responsable de l'équipe des funérailles, etc., peu importe. Je rassemble tout ce monde-là pour qu'on travaille ensemble, qu'on réfléchisse ensemble sur ce qu'on fait, sur ce qu'on vit. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Est-ce que j'entends l'Angélus qui sonne?
Non, je pense que... vous êtes défrayé à quelle hauteur, Père Schwab? Vous êtes rémunéré?
Moi, combien que je touche? Ouais. Eh bien, je touche en gros 1100 euros d'argent de poche.
Et je crois que c'est la même chose partout en France ou
En tout cas pour l'Île-de-France.
Pour l'Île-de-France.
Je veux ici flinguer l'idée tordue, mensongère, que les frères touchent moins que le SMIC. D'accord? Je suis logé. Ici en plus je suis bien logé. Et même si c'est une ou deux pièces, aujourd'hui, trouver un truc à moins de 1200 euros à Paris, je ne connais pas. Donc on est déjà 1200 euros. Mes charges ne sont pas d'impôts. J'en paye parce que j'ai des sous qui sont placés dans une situation personnelle, mais sinon je ne paye pas d'impôts. Et bien, qu'est-ce qu'il faut comme salaire de départ pour qu'une fois que vous avez payé vos impôts, votre logement, vos charges, il vous reste en 100 euros?
Officiellement.
Je parle juste de loyer, charges. reste 100 euros. Oui, 3500. Oui,
c'est ça.
En net. Oui. Donc, si tout à coup le diocèse me disait, messieurs, il faut réduire de 200 euros, je râlerais. Enfin, je reviens. Voilà.
L'évêque est payé, c'est la même chose pour l'évêque.
Ah non, l'évêque, il est bénévole chez nous.
Et il est bénévole?
Oui.
Il n'a pas de salaire?
Non, parce qu'il touche sa retraite du médecin, il touche sa retraite de la Cavimac, de la Sécu. D'accord. Donc le diocèse ne lui donne rien.
D'accord.
Donc il est bénévole. Et il a encore dit ça hier.
Ah ouais. Et les autres évêques, par contre, c'est comme un prêtre.
Exactement.
D'accord.
Voilà. Avant qu'on aille, on va laisser, parce qu'il y a la messe qui va commencer. Ouais. Je vous propose qu'on passe du passage à la sacristie.
Oui, très bien.